je vais justement commencer mon intervention en revenant sur ce titre, dont la première partie, à mon avis, renvoie au véritable défi. Dès qu'il est question de gouvernance de l'axe culture-commerce, qui est le thème aujourd'hui de cet atelier. Donc, ce défi consiste à reconnaître et à faire reconnaître la double nature des biens et des services culturels, quel que soit le niveau d'intervention au sein duquel on se trouve, donc qu'on soit au niveau local, régional, national, international, quel que soit le forum pertinent, qu'on se trouve à l'UNESCO, mais encore davantage quand on se retrouve en négociation à l'OMC, dans les négociations bilatérales et régionales, et même dans d'autres secteurs, même dans d'autres forums, pardon, comme par exemple à l'OMPI. Et quel que soit, on en parle aujourd'hui, quel que soit l'environnement qui nous intéresse, donc qu'on soit dans un environnement plus traditionnel, parce que celui-ci subsiste, on parle beaucoup du numérique, mais les industries culturelles vont continuer aussi à se faire valoir, je l'espère, dans l'environnement traditionnel et, bien entendu, dans l'environnement numérique. C'est l'objectif le plus fondamental de la Convention de 2005, celui qui explique sa raison d'être, celui qui éclaire le sens de tous ses objectifs, celui qui guide la lecture de tous ses principes. C'est le fil rouge, en fait, qui relie l'ensemble des droits et des obligations des États parties. Au cœur de ces droits et de ces obligations, on retrouve le droit des États d'adopter des politiques culturelles de leur choix afin de préserver et de promouvoir un accès à une vaste diversité d'expressions culturelles. Et on sait bien que dans certains cas, ces politiques sont susceptibles d'interférer avec le libre jeu de l'offre et de la demande des biens et des services culturels, mais pour les parties à la Convention, une telle interférence peut être justifiée parce que ces objets de commerce, ils ont une nature bien particulière. Ils ne sont pas que des marchandises, on l'a dit, redit. Ils sont porteurs de messages, de valeurs, de sens, d'identité. Mais jusqu'ici, ces politiques se sont largement fondées sur le principe de la territorialité. Donc, en référence à la notion de frontière physique, matérielle. Et la Convention, bien qu'elle soit technologiquement neutre, et je vais revenir sur ce point-là, elle fut négociée notamment en référence à de telles politiques territoriales. C'est ce qui explique, entre autres, l'absence de référence explicite au numérique. Or, la dématérialisation, qui invite nécessairement à revoir nos modes d'intervention, que ceux-ci visent à protéger ou à promouvoir la diversité des expressions culturelles au niveau national ou encore à l'échelle internationale, nous invite donc aussi à reconsidérer, à revoir notre façon d'envisager la mise en œuvre de la Convention de 2005. Et c'est ce qui nous a amené, depuis quelques mois, à parler de la mise en œuvre de cet instrument à l'ère numérique. Donc, la question qui se pose ultimement, c'est la suivante. Est-ce que cette convention, elle est adaptée à cette nouvelle réalité ou est-elle devenue déjà désuète? Donc, en d'autres mots, est-ce que ces dispositions nous offrent suffisamment de marge de manœuvre pour opérer une telle révision, une telle adaptation de nos modes d'intervention en faveur de la culture? Et deuxième question, si oui, si elle offre cette flexibilité, comment le faire? Donc, ce sont les deux questions auxquelles je voudrais tenter d'apporter quelques éléments de réponse au cours des prochaines minutes. Donc, première question, que peut-on faire exactement avec cet instrument qui, comme on le sait, va fêter l'an prochain ses 10 premières années d'existence? Bien, pour moi, beaucoup de choses. La Convention laisse, à mon avis, une très large marge de manœuvre à ses États parties. Le principe de neutralité technologique, auquel j'ai fait rapidement référence en introduction, a une double signification. Dans le contexte de la Convention, la neutralité signifie que les droits et les obligations des parties au titre de la Convention sont les mêmes, quel que soit le moyen qui est utilisé pour créer, produire, diffuser des expressions culturelles. Deuxièmement, et donc par ailleurs, la neutralité technologique offre une grande marge de manœuvre aux États pour élaborer des politiques qui viseraient des modes particuliers de création ou de transmission. En effet, si la Convention est technologiquement neutre, ça ne veut pas dire pour autant qu'elle impose aux États l'adoption de ce même principe de neutralité technologique. Et d'ailleurs, je pense que la réalité du numérique nécessite sans doute des modes d'intervention spécifiquement adaptés à la particularité de cet environnement. Et c'est d'ailleurs ce qu'on peut lire dans la stratégie culturelle du numérique québécoise qui vient tout juste, comme vous savez, d'être rendue publique. On y dit « Si jusqu'à présent l'intervention de l'État en matière de culture et de communication s'est faite nonobstant les moyens technologiques employés, il doit en être autrement maintenant que le numérique transforme les disciplines, les marchés, les canaux de diffusion, les contenus et les pratiques culturelles. » Pour revenir donc au texte de la Convention de 2005 et à sa neutralité technologique, on en conclut donc qu'aucun amendement n'est nécessaire. La Convention n'a pas besoin d'être modifiée. Les objectifs que l'on visait en 2003, reconnaître la double nature, reconnaître le droit des États d'adopter des politiques culturelles et, je vais y revenir parce que c'est un point important, mettre en place des mécanismes de coopération, ce sont exactement les mêmes. Le numérique ne change pas ces objectifs. Donc, que l'on continue à agir dans l'environnement traditionnel ou qu'on repense nos modes d'intervention dans un espace dématérialisé, dépourvu de toute frontière, à mon avis, les objectifs sont plus ou moins les mêmes. Poussons la réflexion d'un cran. Si l'on pense spécifiquement à l'axe commerce-culture, à l'ère numérique, trois éléments nous intéressent en particulier. Premièrement, on en a beaucoup parlé jusqu'à maintenant, l'adaptation de nos politiques culturelles. On le sait, nos artistes, nos créateurs ont besoin d'être soutenus pour créer, produire, diffuser leurs expressions culturelles et ultimement, idéalement, les exporter aussi, donc pour prendre part aux échanges mondiaux. Faut-il pour autant revoir la liste des politiques et mesures qui sont présentées à l'article 6 de la Convention de 2005, donc qui est article 6 qui porte sur le droit des États d'adopter des politiques et mesures visant à soutenir la diversité des expressions culturelles? Je ne pense pas. Cette liste présente une énumération non exhaustive des modes d'intervention, dont d'ailleurs le premier énoncé est suffisamment général pour couvrir à peu près tous les types d'interventions, puisqu'on parle des mesures réglementaires qui visent à protéger et à promouvoir la diversité des expressions culturelles. Donc, on a vraiment toute la marge de manœuvre voulue. Donc, pour moi, la liste demeure tout à fait pertinente, même si, sur un point, le paragraphe 6.2b, là, qui renvoie au quota, sans le dire, textuellement, là, qui fait référence au fait qu'on pourrait vouloir préserver une place aux biens, aux services culturels nationaux. Bien, le mot « place » laisse supposer que l'espace où se rencontrent le créateur et le public est relativement limité. On avait en tête, bien entendu, la présentation des films au cinéma, le temps de diffusion à la radio, à la télévision. On sait que le problème se pose en des termes très différents sur Internet, l'espace étant illimité. Mais ce qu'on recherche, c'est davantage de la visibilité. Et à cet égard, l'article 6, à mon avis, offre la flexibilité aux États pour adopter des politiques visant à atteindre cet objectif pour les biens et services culturels nationaux. Deuxième élément pertinent pour la gouvernance de l'axe commerce-culture à l'ère d'Internet, l'aide aux pays en développement. Le but étant de bonifier l'offre des biens et des services culturels de ces pays, d'abord au niveau national, donc renforcement des capacités au niveau national, et bien entendu, idéalement, pour que ceux-ci prennent part aux échanges mondiaux. Est-il nécessaire de modifier la Convention? Bien, vous irez lire l'article 12 de la Convention qui fait référence aux objectifs à poursuivre. On parle des objectifs en termes « en vue notamment de », donc liste non exhaustive. Vous irez lire l'article 14 sur les moyens qui peuvent être utilisés. C'est la même chose. On dit « entre autres par les moyens suivants ». Et d'ailleurs, on parle ensuite de renforcement des industries culturelles, d'échange d'informations et d'expertise. Il est aussi question de transfert des technologies, bien qu'on ne nomme pas le numérique, là, mais c'est évidemment visé. Et bien entendu, de soutien financier, de partenariat et dispositions très fondamentales pour la question du commerce, du traitement préférentiel que l'on peut vouloir accorder aux pays en développement. Pourquoi modifier le texte? Pour y ajouter quoi? Les mêmes objectifs, à mon avis, doivent être poursuivis. Enfin, troisième élément renvoie à la question de la relation entre les traités et la promotion des objectifs de la Convention dans les forums commerciaux. On sait que les technologies numériques peuvent avoir un impact considérable sur la portée des instruments juridiques appelés à interagir avec la Convention de 2005. Et donc, il faut reconsidérer les instruments qui sont pertinents. Mais est-ce qu'il faut pour autant revoir le libellé des articles 20 et 21? Je pense, premièrement, que ces articles sont suffisamment génériques pour, encore une fois, nous laisser beaucoup de marge de manœuvre. Et je pense surtout qu'il serait extrêmement dangereux de réouvrir ces dispositions-là, qui ont été, pour ceux qui étaient là il y a 10 ans, parmi les plus difficiles à négocier. Donc, à mon avis, exercice dangereux et surtout inutile, puisqu'on a la marge de manœuvre pour considérer les outils qui nous intéressent. Donc, sur ce premier point, je dirais donc simplement pas nécessaire d'amender le texte. Celui-ci nous offre toute la latitude requise, encore moins nécessaire, parce que ça circule parfois comme proposition, d'élaborer une nouvelle convention. Moi, je pose la question, pourquoi? Quels seraient les objectifs supplémentaires qu'on pourrait vouloir atteindre? On a un texte là qui fixe des objectifs, à mon avis, qui sont tout à fait pertinents pour la protection et la préservation de la diversité des expressions culturelles dans l'univers numérique. Il me reste quelques minutes. Je vais aborder la deuxième question. Comment maintenant doit-on procéder? Comment, à partir du texte actuel, on peut adapter la mise en œuvre de la Convention pour tenir compte de la réalité du numérique? C'est une question qui est tout autant, sinon plus politique que juridique. Je l'avais pas pleinement mesuré avant la dernière réunion du comité intergouvernemental de décembre 2013, et aujourd'hui, je peux plus en faire abstraction, bien que je sois juriste, ça me pousse un peu à l'extérieur de mes limites. Pour bien comprendre la dynamique actuelle et le défi qui nous attend, j'aime faire la comparaison suivante, c'est-à-dire reportons-nous dans les années 90, là, au début du débat là, sur la relation commerce-culture dans le contexte des négociations d'Uruguay, des négociations de l'accord multilatéral sur l'investissement. Seule une petite poignée d'acteurs, hein, le Canada, le Québec, la France, quelques représentants de la société civile mesuraient bien les enjeux puis étaient capables de voir où on s'en allait. Pourtant, a fallu qu'on fasse d'importantes opérations de sensibilisation du public en général, mais surtout des États, pour qu'on en arrive quelques années plus tard, et c'était très, très rapide, à l'adoption de la Convention en 2005 avec un soutien de 148 États. À mon avis, un chemin similaire doit aujourd'hui être parcouru pour incorporer la question du numérique dans les travaux entourant la mise en œuvre de la Convention. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est que il y a quelques pays développés qui sont conscientisés là, à cette question, et même quelques pays en développement. Donc, je pense qu'on part pas tout à fait du même niveau, mais à court terme, l'intégration de la question du numérique dans les travaux de la Convention demande surtout de sensibiliser les membres du comité intergouvernemental. Et je vous dirais que là, il y a une toute petite poignée d'États qui poussent avec vigueur, certains le font plus subtilement, mais qui poussent avec vigueur les travaux dans cette direction. Et en plus, pour le secrétariat de la Convention, bien, c'est aussi une question de moyens. On le sait, les ressources sont limitées. Donc, nécessairement, ça peut faire peur de s'attaquer à ce sujet nouveau et complexe, d'autant plus que la grande priorité, et le secrétariat le dit et le redit, dans la mise en œuvre, c'est le renforcement des capacités des pays en développement. Et c'est sur ce point, moi, ce qui m'a frappé au cours de la dernière année, c'est qu'on n'en soit pas encore arrivé au constat que le renforcement des capacités repose notamment sur l'incorporation des technologies numériques dans les politiques de développement. On perçoit le numérique comme une autre question à part. Donc, ça, c'est un constat auquel j'en suis arrivée en décembre. Donc, la priorité des priorités, à mon avis, c'est de démontrer le lien fondamental qui existe entre le renforcement de nos capacités et les enjeux du numérique pour tous, mais aussi pour beaucoup pour les pays en développement, qui sont peut-être ceux qui voient le moins bien, comment dire, ce qui peut les intéresser dans cette question. Et ils ont quand même, pour certaines, tendance à penser que c'est une question qui devrait intéresser que les pays développés. Or, on a besoin des pays en développement pour aller de l'avant au sein des organes de la Convention dans la mise en œuvre de cet instrument à l'ère du numérique. Pourtant, il y a déjà des belles expériences qui existent dans les pays en développement, et on l'a vu dans certains rapports périodiques. Là, il y a une première série de rapports périodiques qui a été publiée l'année passée. Il y en a des belles expériences, il y en a des pays en développement qui incorporent, qui ont commencé à intégrer et à tirer profit du numérique pour les industries culturelles. Donc, je pense qu'il faut rassembler ces exemples de bonnes pratiques, en identifier davantage et les faire connaître. C'est qu'une fois cet exercice bien initié, qu'on va pouvoir aller de l'avant, d'abord par l'adoption de certaines décisions au sein du comité intergouvernemental, puis de la conférence des partis. Quel pourrait être l'objet de ces décisions qu'il va falloir prendre au sein des organes? Bien, il faut se questionner sur les outils. Quels sont les meilleurs outils juridiques, là je reviens dans ma zone de confort, possible pour inciter les États parties à incorporer des technologies numériques dans la mise en œuvre de la Convention? Puisqu'à mon avis, les modifications du texte ne sont pas nécessaires, il va falloir procéder par la voie des directives opérationnelles. Autre question qui se pose, est-ce qu'il faut modifier les directives existantes? Est-ce qu'il faut en élaborer de nouvelles? Ce sera aux parties d'en convenir. Mais pour moi, le point le plus important, ce sera d'assurer une intégration transversale de la question du numérique dans la mise en œuvre de la Convention. Et il ne faut pas en faire un sujet distinct. En arriver à une directive opérationnelle un peu déconnectée du texte et qui ne parle que du numérique. C'est une réalité numérique qui concerne toutes les dispositions de la Convention. Donc, si jamais on fait une nouvelle directive opérationnelle, il va falloir qu'on use de notre imagination pour faire en sorte que celle-ci renvoie sans doute à toutes les directives opérationnelles existantes. Et sachant qu'il n'y a pas des directives sur toutes les dispositions de la Convention, il va peut-être aussi falloir aller un peu plus loin. J'en ai pour 2 minutes. Est-ce que ça va? Donc, au-delà de cela, il faut assurer la pérennité de la Convention et de ses directives, qu'elles soient nouvelles ou modifiées, en préservant leur capacité à ces instruments de s'adapter aux évolutions futures. Parce que les industries culturelles, elles, continuent d'évoluer. Elles évoluent en permanence. Il faut donc continuer à préserver cette flexibilité, la marge de manœuvre. Il ne faut pas se lier les mains avec ce que l'on voit aujourd'hui. Il faut penser aussi à l'avenir. Parce que il semblerait, pour moi, j'ai constaté là, au cours des derniers mois, en faisant des recherches sur ce sujet, que c'est réducteur de parler simplement de la dématérialisation des produits culturels, comme s'il s'agissait d'un seul phénomène linéaire. En fait, l'industrie du numérique elle-même semble en perpétuelle mutation. Qu'on pense simplement à la musique, qui a abandonné son support matériel pour d'abord prendre la forme d'albums numériques, puis de pistes numériques, et qui est désormais accessible. Non plus par le téléchargement des pistes numériques, mais par les sites de streaming. Donc, les industries même évoluent. Donc, il ne faut pas se fixer dans un carcan qui nous pousserait encore dans 5 ans à se dire on est déjà dépassé par la réalité. Il faut revoir ce qu'on a fait comme directive opérationnelle. Pour promouvoir les objectifs et principes de la Convention, pour ce qui est des autres forums internationaux pertinents pour l'avenir de la relation commerce-culture, bien, je pense que là, il faut recueillir déjà certaines informations sur les pratiques qui se sont développées depuis l'entrée en vigueur de la Convention. Et l'UNESCO a déjà commencé à réaliser des enquêtes sur la mise en œuvre de l'article 21 auprès des États parties. Donc, là, il serait souhaitable que lors d'une prochaine consultation, on demande aussi aux parties d'écrire spécifiquement qu'en est-il de leur intervention visant explicitement la question des technologies numériques dans les autres enceintes internationales. Et d'ailleurs, je souligne que le secrétariat, si vous ne le savez pas, veut approfondir là, cette réflexion sur la mise en œuvre. Il y a un important travail qui est en train de se préparer pour la prochaine année. Et lors de la prochain comité intergouvernemental, il y aura un point spécifiquement consacré à ce sujet. Nous, qui s'intéressons au numérique, il faut s'assurer que dans ce travail sur l'article 21, on n'oublie pas la question justement du numérique, que ce soit bien incorporé dans les travaux là, qui sont en train de s'organiser. Au-delà de ce travail, je pense qu'il faut aussi réfléchir à l'évolution des techniques juridiques qui peuvent être incorporées dans les traités afin d'assurer leur cohérence entre eux. Et bien entendu, ce qui nous intéresse en particulier aujourd'hui, c'est les accords commerciaux et la Convention de 2005. Parce que la relation entre les préoccupations culturelles et les préoccupations commerciales, à mon avis, s'intensifie avec l'essor des technologies numériques. La tendance générale est à la dématérialisation des produits culturels, ce qui ne fait qu'intensifier et accélérer les flux. Donc, il est plus urgent et il sera utile pour les pays, et en particulier pour les pays en développement, qu'on élabore, qu'on pense à des clauses. D'abord qu'on fasse un compendium des clauses utilisées dans les accords de commerce pour renvoyer à d'autres accords internationaux, voire qu'on en élabore de nouvelles types de clauses susceptibles d'être adaptées plus particulièrement au secteur culturel et d'être incorporées à un accord commercial bilatéral ou régional. J'aurais voulu revenir sur la présentation de M. Wells qui a fait référence tout à l'heure à la question de la norme culturelle dans les accords commerciaux. Donc, je fais un peu un renvoi. Quand je parle de compendium des clauses, c'est oui pour renvoyer à des accords culturels, mais on pourra en reparler. Je pense que ça ne doit pas être non plus l'unique moyen que l'on envisage pour faire évoluer la relation commerce-culture, dans ce sens où on a changé de paradigme, on est passé de l'exception à la diversité. Donc, il faut arrêter, en tout cas, il ne faut pas uniquement s'arrêter à rechercher des références explicites à la culture dans les accords de commerce. Il faut aussi regarder le contrepoids qui se crée à l'extérieur et les effets de ce contrepoids-là au niveau national dans les façons dont les États se positionnent, notamment dans l'élaboration de nouvelles politiques culturelles dans des pays où il n'y en avait pas. Et la Convention a cet effet-là, de pousser des pays à se doter de ministères de la culture, de politique culturelle. Je suis désolée, je déborde, mais je n'ai pas eu l'occasion tantôt et ça me chicotait de devoir dire un petit quelque chose là-dessus. On pourra en reparler. Donc, j'insiste en conclusion sur un seul point, l'urgence. L'urgence d'agir, d'incorporer le numérique dans la mise en œuvre de la Convention avant qu'il ne soit trop tard, tout simplement. L'industrie évolue rapidement. Le droit est, par définition, quelque chose de réactif. Attendons pas trop cette fois pour réagir. Je pense que saisissons-nous du sujet avant que l'on soit complètement dépassé par la question. Désolée, j'ai été plus longue que prévu. Merci.